Aujourd'hui, sa parole, c'est le podcast de Lectio Divina de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Nous poursuivons notre méditation sur la première lettre aux Corinthiens. Nous avons commencé cette série de balados par une boîte à outils qui nous donne un peu la méthodologie de la Lectio Divina, même si c'est pas une recette, c'est une rencontre personnelle avec Jésus, mais il y a certains étapes que l'on peut franchir qui nous aident à entrer dans cette expérience contemplative de la Bible. Ensuite, nous avons une introduction générale sur la première lettre aux Corinthiens. Nous avons dit que c'était une lettre très intéressante du point de vue historique, une des plus anciennes, écrite après 20 ou 30 ans après la mort et la résurrection du Christ. Et puis nous sommes entrés dans le contenu théologique et spirituel. Paul nous a d'abord parlé de la sagesse de la croix qui est en violent contraste avec la sagesse de ce monde, cette sagesse qui a culminé, qui a resplendi mystérieusement dans la croix de notre Seigneur, ce langage de la croix qui est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous les croyants, il est puissance de Dieu. Ensuite, Paul a abordé la question centrale un peu de cette épître, celle de l'unité, parce qu'il y a des petites castes, des petits sous-groupes. On s'associe à Apollos, à Paul ou à Képhas, et Paul le dira que tout est à vous. Paul, Apollos, Képhas, le ciel et la terre, le présent et l'avenir, tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Il a ramené cette communauté à son fondement, qui est Jésus-Christ, ce fondement que lui-même a posé comme un bon architecte. Ensuite, nous avons vu un petit peu la personnalité de Saint Paul, son expérience spirituelle, ce pharisien parfaitement zélé pour la loi de Moïse qui a été renversé par le Christ ressuscité qui lui a montré que on ne devient pas ami de Dieu par l'observance de la loi, mais par le sacrifice que Jésus a fait par la foi dans sa mort et dans sa résurrection. C'est cela qui est la source de notre justice. Nous arrivons aujourd'hui au chapitre 5 et 6 de la première lettre aux Corinthiens. Et le langage devient un peu plus rude. Et Paul est assez fâché de constater que il y a une inconduite dans cette communauté. Au verset 1, il dit « On entend parler que d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qui n'en existe pas même chez les païens. Vous vous êtes gonflés d'orgueil. C'est à ce point que l'un de vous vit avec la femme de son père. » Évidemment, il vit avec sa belle-mère, peut-être la seconde ou la troisième femme de son père. À l'époque, ce comportement était réprouvé à la fois par la loi juive et aussi par la loi païenne, la loi romaine. Donc c'était un scandale à la fois pour les juifs, pour les croyants, comme pour les païens. Alors, Paul a des paroles très dures pour cet homme, on est peut-être un peu choqué en lisant ça. « Livrer cet individu à Satan ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on l'a voué au diable, mais ça veut dire qu'il doit être exclu de la communauté chrétienne, et donc plus puisqu'il n'est plus dans l'ère du salut, dans cette communauté de salut qu'est l'Église, eh bien, il se trouve livré par conséquent à Satan. Mais cette excommunication, on dirait aujourd'hui, dans un langage plus contemporain, ne vise pas la condamnation du pécheur. Elle a deux objectifs, c'est d'abord de purifier la communauté, il dit un peu de levain fait lever toute la pâte, c'est une image pour dire que c'est comme un membre qui serait malade, qui risquerait de scléroser tout le corps, donc il faut le couper, il faut l'amputer du corps. Donc purifier la communauté, le premier objectif, mais surtout amener le salut du fautif, il dit... Voilà, il faut le livrer à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alors, c'est difficile à interpréter comme formule, mais c'est une manière de dire que l'homme charnel, bien, il doit mourir, et l'homme spirituel, lui, sera sauvé au jour du Seigneur, si, évidemment, il se repent. Et ce passage est conclu par une très belle tirade qui nous renvoie à l'Exode, à la sortie d'Égypte. Il dit « Oui, car notre Pâque, le Christ, a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête non pas avec du vieux levain, ou ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azymes de pureté et de vérité. » Donc le Christ, notre Pâque, a été immolé. Paul montre clairement que l'agneau que les Juifs ont sacrifié, immolé au moment de sortir d'Égypte, dont le sang a marqué les linteaux pour protéger la communauté hébraïque de l'ange exterminateur qui devait décimer les premiers-nés d'Égypte, eh bien cet agneau était la figure du Christ. C'est lui qui est la véritable Pâque. Et alors, il invite donc à fêter cette Pâque, peut-être que la fête de Pâque approchait à ce moment-là, avec non pas les vieux ferments de la perversité et le vice, mais les azymes de la pureté et de la vérité. Parce que dans le monde juif, eh bien, à Pâques, on ne mangeait pas de pain avec du levain pendant 7 jours pour se rappeler la sortie d'Égypte. Alors Paul en fait la figure de la pureté, cette pâte nouvelle que vous êtes puisque le Christ a été immolé. Donc c'est magnifique au niveau symbolique, au niveau allégorique, ça nous renvoie à tout le mystère de Pâques. Et Paul situe donc sa morale dans le mouvement de mort et de résurrection, comme pour cet incestueux qui est appelé aussi au repentir, à revenir à la vie en mourant au péché, en ressuscitant par le repentir et la vie nouvelle. Alors ensuite, nous nous trouvons dans le chapitre 6 qui traite de la question de la justice. Mais là ici, Paul au fond joue sur le concept de justice à deux niveaux. Il y a celle des hommes qui s'incarne, qui se réalise dans les tribunaux, les poursuites, les plaintes, et celle de Dieu qui nous est donnée par le Christ. Mais Paul est choqué du fait que d'abord qu'il y ait des injustices flagrantes entre frères chrétiens est déjà un scandale pour lui, mais en plus qu'on ait réglé ces litiges devant des païens qui n'ont pas reçu cette justice qui vient de Dieu. Alors, Paul dit cette chose étonnante, il dit « Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'une fois que nous serons dans la gloire avec le Christ, eh bien, les anges révoltés, les démons seront sous nos pieds, nous les jugerons par notre sainteté, cette sainteté qui nous a été communiquée par le Christ. Donc, cette justice de Dieu, eh bien, elle devrait présider aussi à la justice dans les relations humaines. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, Paul dit « Celui qui était sans péché, Dieu l'a identifié au péché, afin que nous devenions justes de la justice même de Dieu. » Donc, et puis il conclut avec ce très beau passage au verset 11 du chapitre 6, « Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc là, Paul fait clairement allusion au baptême. Donc dans un premier temps, nous avons parlé de l'agneau pascal, de la sortie d'Égypte, et maintenant nous sommes dans le baptême, mais c'est une autre figure pascale, puisque Paul dira dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 que « baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisé, afin que comme le Christ est ressuscité des morts, nous vivions une vie nouvelle. » Donc vous voyez, ces deux chapitres, malgré leur sévérité disciplinaire, si je peux dire, sont quand même par le génie de Paul situés dans le mouvement pascal. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés par le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc il s'agit de passer à cette vie nouvelle, de laisser cette vie ancienne marquée par l'orgueil, par l'esprit de caste, pour s'appuyer sur le fondement qui est Jésus-Christ, pour vivre de cette justice qu'il nous a donnée gratuitement par sa mort et sa résurrection, moyennant la foi. Voilà, frères et sœurs, donc je veux rappeler aussi quelques éléments méthodologiques auxquels nous avons fait allusion dans la boîte à outils. Je voudrais en ajouter un autre aujourd'hui, c'est celui des parallèles ou des renvois dans une Bible. Quand c'est une grande Bible, un format grand, les Bibles de poche ne l'ont pas nécessairement, vous avez dans la marge des paragraphes, des références. Alors c'est intéressant d'aller voir à quoi elles renvoient. Quand Paul dit par exemple qu'on enlève le mauvais du milieu de vous, eh bien il fait allusion à un passage du Lévitique au chapitre 18, verset 29. Vous pouvez aller voir ce passage. Il y a aussi des références à l'évangile de Matthieu, d'autres à l'Apocalypse, aux Actes des apôtres. Vous voyez, après avoir fait trois lectures, comme on dit dans notre méthode, et avoir médité, on peut pousser un peu plus loin la recherche et aller dans... on n'a peut-être pas tout le temps de faire tous les renvois parce qu'il y en a beaucoup dans les marges, mais on peut en choisir quelques-uns. Et ça nous fait entrer dans la grande poésie biblique. Ça nous fait comprendre que Paul est un juif, qu'il connaît l'Écriture, que nous, nous ne la connaissons pas assez. Mais ça nous fait faire tout un petit chemin, une balade à travers la Bible, dans l'Ancien, le Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse. Et ça fait des liens, ça fait comme des harmoniques bibliques. Et c'est comme ça que petit à petit, eh bien, on apprend à connaître la Bible. Je termine par une prière. Car notre Pâque, le Christ, a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni du levain de malice et de méchanceté, mais avec des azymes de pureté et de vérité. Alors merci Seigneur, puisque par le baptême nous avons été lavés, sanctifiés et justifiés, tu as voulu nous libérer de tous ces ferments de méchanceté et de vice, pour mettre en nous cette pâte nouvelle que nous recevons aussi dans chaque Eucharistie, où tu nous communiques ta mort et ta résurrection, afin que nous vivions justifiés comme des justes, en union avec toi, notre Seigneur, et dans la charité les uns pour les autres. Amen. Bonjour, bienvenue à Aujourd'hui sa parole, le podcast de Lectio Divina de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Nous continuons notre lecture méditative de la première lettre aux Corinthiens. Nous avons lu la semaine dernière les chapitres 5 à 7. J'aimerais revenir rapidement sur le chapitre 6 d'abord, qui touche à la question de mœurs, de sexualité, de mariage et de célibat. Paul parle d'abord du problème de la débauche. Alors il faut voir le contexte dans lequel cette communauté chrétienne est née à Corinthe. On en a déjà parlé, on est au milieu d'un port, donc où il y a toutes sortes de choses qui se passent, il y a beaucoup de biens et d'êtres humains qui circulent, et de mœurs et de religiosité. Dans le contexte païen aussi, il y avait des cultes de la fécondité qui étaient assez étonnants. Parfois, on promenait des immenses phallus en procession dans les rues avec des cymbales et des trompettes. Ces cymbales dont Paul parlera au chapitre 13 quand il dit « Si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui retentit ». Parfois même, il y avait des orgies collectives qui étaient organisées autour de ces cultes païens. Et même, il existait la prostitution sacrée. On dit que du temps de Paul à Éphèse, il y avait près de 200 prostituées sacrées dans le temple d'Artémis. Alors, c'est dans ce contexte-là que Paul nous dit, bien, vous n'avez pas besoin d'aller voir la prostituée pour recharger votre vie érotique ou divine, mais votre corps est un temple de l'Esprit-Saint, dit-il au verset 19. Autrement dit, vous êtes déjà rempli de cette puissance divine, et ce corps, il est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour le corps, d'abord parce que nous avons un Dieu qui a pris chair, qui a adopté un corps et qui a donné à ce corps une noblesse inégalée, mais aussi parce que Dieu, nous dit encore Paul, par sa puissance a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Donc notre corps, on pourrait dire, a une vocation céleste, a une vocation éternelle. Il est appelé à participer à la gloire de Dieu, un peu comme Jésus sur le mont Tabor s'est montré à ses apôtres avec son corps transfiguré. Son visage était rayonnant comme un soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Donc, Dieu va ressusciter ce corps, c'est un des grands articles de la foi chrétienne, la résurrection de la chair. Ce qui était très choquant pour la mentalité grecque de l'époque, parce qu'on est dans le registre asiatique, orientale, vous savez, de la métempsycose qu'on retrouve chez Platon, c'est-à-dire la réincarnation. Au fond, le corps, c'est comme une, je dirais, comme une pinte de lait. Quand c'est vidé, on le jette. Le corps est jetable, c'est juste un lieu de migration de l'âme. Même Platon dira que le corps est le tombeau de l'âme. Et rappelez-vous quand Paul va aller prêcher à Athènes, à l'Aréopage, c'est-à-dire l'élite intellectuelle de l'époque, il va être écouté jusqu'au moment où il parlera de la résurrection. Et les Grecs ont bien compris qu'il parlait de la résurrection, c'est-à-dire le corps et l'âme. Et pour eux, c'était une idée ridicule et méprisable. Mais pourtant, c'était ça la nouveauté extraordinaire de l'Évangile. Et Jésus est le premier qui a réalisé cette vérité, puisqu'il a pris un corps comme le nôtre, il a souffert, il est mort, il est ressuscité le troisième jour avec ce corps qui est maintenant dans la gloire et qui est avec lui le grand prêtre éternel qui intercède pour nous. Donc, le corps est pour le Seigneur est pour le corps, non pour la débauche, parce que ce corps est un temple, il est rempli par la présence divine qui ne cesse d'être renouvelée grâce à la vie spirituelle, à la parole de Dieu, au sacrement. Ensuite, au chapitre 7, Paul aborde les questions importantes et délicates du mariage et du célibat. D'abord, il faut se mettre dans le contexte qui est celui du christianisme du début, des débuts. C'est un christianisme qui vit dans l'attente imminente du retour du Christ. Et pour Paul, tout est orienté, tout est ordonné à cette vérité, à cette réalité historique qui est attendue comme quelque chose qui va se passer bientôt. Il le dit, ce monde que nous voyons est en train de passer. Il a le sens de cette caducité de l'existence humaine et même de l'existence du cosmos. Alors, d'une certaine manière, c'est comme s'il nous disait, il faut vivre en ayant fait ses bagages. Il faut vivre comme des gens de passage. Et c'est la première, comment je dirais, lumière qui éclaire sa réflexion sur le mariage et le célibat. C'est pourquoi pour lui le célibat est plus adapté à la est mieux adapté pardon à la situation des chrétiens actuels parce que le Seigneur va venir et il va transformer nos corps de misère en corps de gloire avec cette puissance qui le rend capable de tout se soumettre. Première chose donc pour laquelle il valorise le célibat. La seconde, c'est pour que, comme il dit, vous soyez attachés au Seigneur sans partage, car l'homme qui cherche à plaire à sa femme a comme le cœur partagé. Surtout que Paul examine des situations qui sont très contemporaines aussi, de couples mixtes avec non-croyants ou avec d'autres religions ou avec d'autres croyances chrétiennes. Donc, pour Paul, évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir vivre une vie entièrement consacré au Seigneur. Mais en même temps, c'est touchant de voir le réalisme de Paul. Il est conscient que le célibat est un don, est un charisme. Il dit la continence est un don et l'Esprit donne à chacun un don en particulier. L'un reçoit tel, l'autre reçoit tel autre. Donc, beaucoup de réalisme. Il se rend compte que ce célibat, comme dit le Seigneur, c'est pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Dans Matthieu 19, Jésus dit, il y a des hommes qui sont eunuques par le fait des hommes, par le fait de la naissance. D'autres le sont pour le royaume, c'est-à-dire qu'ils choisissent l'abstinence sexuelle pour toute leur vie, que celui qui a des oreilles entendre. Donc, ceux qui sont appelés, ils peuvent le comprendre. Ensuite, Paul va examiner un ensemble de situations délicates par rapport au mariage et il dit cette chose très belle, l'homme ne dispose pas de lui-même, mais sa femme, et la femme ne dispose pas d'elle-même, mais son mari. Et ce faisant, il affirme au fond l'égalité de l'homme et de la femme. Aussi, il affirme une réalité qui peut nous paraître surprenante, mais implicitement, il affirme la monogamie, parce que la polygamie, le fait d'avoir pour un homme plusieurs épouses était encore une réalité dans le monde de l'époque. Et Paul aussi valorise l'intimité conjugale. Il la valorise et on ne doit pas vivre d'abstinence sexuelle sauf pour un motif spirituel et pour un temps. Pourquoi? Eh bien, parce que cette intimité conjugale est un rempart, est une protection contre les tentations dans ce monde, encore une fois, qui valorise la débauche et qui organise des orgies, donc qui demande une radicalité pour vivre cette pureté, cet idéal évangélique. Donc, terminons cet exposé par un petit temps de prière. Au chapitre 6, verset 19. « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple de l'Esprit-Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car le Seigneur a payé le prix de votre rachat. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Oui, Seigneur, tu nous as dit plus tôt dans le chapitre 3 que nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés dans le nom de Jésus et l'Esprit de notre Dieu. En effet, le baptême nous a lavés, nous a fait mourir au péché et nous a fait naître à une vie nouvelle comme ta résurrection. Et par conséquent, notre corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour notre corps. Merci Jésus aussi de nous donner à chaque Eucharistie ce corps glorieux, un corps humain semblable au nôtre et qui est habité par ta personne divine pour nous dire que le Seigneur est pour le corps et le corps pour le Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.